Radio Campus 106.6 FM, campusville.com, toujours dans l'émission Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h30 et 18h. Et traditionnellement, notre premier mercredi du mois est consacré en partie à ce qui se passe dans les structures culturelles de l'Université de Lille. Et on retrouve des habitués, puisqu'il s'agit de Raphaël et Vladimir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, voilà, vous allez nous présenter un petit peu ce qui se passe dans plusieurs lieux, c'est ça ?
C'est-à-dire que là, maintenant, on arrive à la fin de la saison 2017-2018. Donc, c'est essentiellement des concerts à l'entre-deux qu'il y aura.
À l'entre-deux, d'accord.
L'entre-deux continue à programmer, un peu en mai et surtout beaucoup en juin. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête si jamais vous cherchez.
Peut-être une petite idée, parce que moi, je suis un peu déconnecté, là. Est-ce que les étudiants sont en vacances, là, ou bientôt ou
voilà, ils sont enfin, ce qu'on appelle une pause pédagogique, n'est-ce pas ?
Mais consacré entièrement aux révisions.
Exactement.
Celle qui arrive après les vacances.
Mais oui, pour l'instant, bah, c'est plutôt une, on va dire une période morte, entre guillemets, dans la vie d'être universitaire, parce que oui, c'est essentiellement là qu'arrivent les partiels pour les masters ou même pour les licences un peu plus tard. Il y a aussi les sessions de rattrapage. Donc,
après, tout dépend des composants. Voilà. Il y en a qui ont déjà eu leur partiel, d'autres qui vont avoir des partiels un peu après. Je sais qu'à Sciences Po, là, ils sont en vacances et puis ils vont avoir les partiels mi-mai. Et ensuite, il y aura les rattrapages fin juin. Donc voilà, je pense que c'est un calendrier.
Et leur validation d'année sont quand ?
Je pense qu'ils le sauront début juillet après les rattrapages pour ceux qui en ont. D'accord. D'ailleurs, je pense très fort à eux.
Bah oui. Donc on va les encourager aujourd'hui.
Oui, mais surtout déjà à passer la première vague de partiels et puis j'espère qu'ils en auront, qu'ils n'auront pas de rattrapage.
Et on va leur donner aussi des occasions de retrouver le moral en allant voir des choses de qualité.
Bah exactement, il y aura plein de choses qui vont se faire à l'entre-deux.
Ça va être assez hétéroclite d'ailleurs, on aura de la chanson française, un peu de la pop, il y a aussi d'autres, de la musique classique aussi, plutôt, donc oui, il y en a un peu pour tous les goûts.
Alors Vladimir, tu nous as préparé quelque chose là, on va essayer de lancer les
Alors je tiens, avant de passer ce petit son, à parler des deux concerts qui vont se passer à l'entre-deux. Alors malheureusement, il y a beaucoup de chances pour qu'ils soient tous les deux complets déjà, puisque ça sera un peu une thématique télécrochet, puisque ça sera deux artistes qui vont passer, qui ont déjà participé à La Nouvelle Star, je crois, et The Voice, voilà. Le 16 mai, on aura un concert de Foé et de Leila Huissoud. Je ne sais pas comment on prononce ça. Donc Foé, qui était un chanteur à texte français, qui mélange un peu différentes influences électroniques classiques et qui fait des textes assez poétiques et assez beaux. Il a une voix assez présente, une voix bien dans les graves, avec un concert aussi le 22 mai de Oshi, qui est aussi une chanteuse qui a participé à une émission de télécrochet et qui est là. A une voix très très brute en fait, très brute de décoffrage et qui fait des textes assez profonds et aussi parfois peut-être un peu sombres aussi sur sa propre vie. Donc ça c'est quelque chose qui, je pense, alors ces deux concerts ont déjà pas mal de succès puisque ce sont des personnalités assez connues. Mais ça sera pour la programmation en tout cas début milieu de mai. Et puis là le son que je vais vous passer, c'est un son d'un concert qui va arriver le 25 mai. Donc celui-là n'est pas complet, donc tous ceux qui veulent venir écouter un concert du groupe Fontaine Wallace et un autre groupe Gang Clowns, et c'est de la pop. Donc il y a la pop française et il y a aussi de la pop qui sera un peu plus inspirée de la pop anglaise, mais la musique parle mieux que les mots, donc je peux en passer un petit
Merci,
extrait.
Merci Vladimir.
Yeah. cherchons l'architecte, mais nous n'avons trouvé que des ouvriers inquiets. Nous cherchons l'architecte, mais nous n'avons trouvé que des ouvriers inquiets. Échangeons des souvenirs de voyage et des poèmes griffonnés au dos de la carte routière d'un monde en guerre, de la carte routière d'un monde en guerre. Nous cherchons l'architecte, mais nous n'avons trouvé que des ouvriers inquiets. Nous cherchons l'architecte, mais nous n'avons trouvé que des ouvriers inquiets.
Et j'aurais encore deux chevaux, 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 et je rêve encore deux chevaux, et je rêve encore.
Qu'il y a ce garçon à la sortie de la ville, il porte un carton sur lequel il est écrit 1 euro pour manger SVP.
Voilà, sur Radio Campus, surprise pour moi, une belle découverte d'ailleurs. Donc Vladimir, tu peux peut-être nous dire qui il est.
Alors c'est le groupe Fontaine Wallace, ouais. Donc, c'est un petit ensemble qui fait de la pop, comme vous l'avez vu, une pop assez upbeat, mais qui a des textes qui sont assez satiriques, aussi assez,
ouais, puis,
assez profonds.
Dans l'actualité en même
ouais,
temps.
Vraiment ouais, dans l'actualité.
C'est pas banal pour, comme ouais. style.
Ça c'était le morceau Architecte du groupe Fontaine Wallace, et ils seront à l'Entre-deux le 25 mai. Mais à 20h30, toujours les mêmes tarifs, hein, 2 euros pour les étudiants.
Alors, tout à l'heure, tu disais que certains concerts étaient complets. Comment on réserve?
Alors, on réserve, c'est très simple. On envoie un mail à l'adresse culture@univ, comme université, univ-lille2.fr.
Voilà.
culture@univ-lille2.fr. Tirer du 6, hein, j'entends.
Tirer du 6, ouais.
Donc voilà, en tout cas ça c'était pour la soirée pop, enfin en tout cas ça reste très aérien et assez beau, on va dire ça
ah oui,
aussi simplement. Et donc là on va quitter un petit peu la France ou même le côté pop pour revenir sur des musiques plus du monde. Et là c'est le groupe Derya Yildirim and Group Simsek, qui est un groupe turc, c'est un super quintet. Et donc qui mêle un petit peu musique justement musique actuelle des 70s un peu je dirais un peu psyché un peu
parfois un peu funk
ouais. Bon voilà, ils cherchent vraiment des sonorités tout en gardant justement leur sonorité de musique traditionnelle turque, en utilisant des instruments aussi qui je ne sais pas du tout le nom de
saz, elle joue beaucoup de saz.
Ah ouais, voilà, c'est ça.
Donc on a toujours ces harmonies un peu dissonantes que peuvent apporter les quarts de ton, mais aussi avec des guitares très très occidentales en quelque sorte, et ce mélange des deux, on l'a écouté tout à l'heure, c'était vraiment très
Donc on a découvert, et donc on va vous faire découvrir juste après. Et donc juste pour rappeler un peu quand ce concert aura lieu, ce sera le 12 juin à l'Entre-deux à 20h30 toujours. Et après maintenant, on a la musique.
On a juste oublié peut-être de préciser une petite chose. Il y aura aussi un concert donc début juin. Donc là, ce sera de la musique classique. Donc ce sera le 5 juin. Ce sera un spectacle lyrique avec une soprano et un accordéon. un accordéoniste qui était déjà venu à l'entre-deux pour faire un trio autour de Piazzolla et de tous ces compositeurs de musique argentine. Et là, ils vont s'intéresser à la musique de Verdi et des textes d'Alexandre Dumas, qui s'appelle le concert Sempre Libera. Et donc ça sera le 5 juin, donc encore on voit une programmation très éclectique pour l'entre-deux. Le 5 juin, oui.
D'accord,
ouais,
et là
Et là, le concert dont on parlait, là, de Derya Yildirim, ça sera le 12 juin. Toujours à 20h30.
Bon, on va écouter. Très bien, Vladimir. voilà la musique turque à votre porte le 12 mai, 12 juin, pardon. C'est en quel jour ça, le 12? Voilà, parce que là on va chercher le 12. Bon,
c'est un jour de la semaine, je peux vous le garantir.
C'est un jour de la semaine. Le 6 juin, c'est mon anniversaire. Je vous dis ça à tout hasard.
On vous offrira la place.
Donc comment on va dire? Oui, il y a un tarif d'entrée modeste, mais
c'est toujours la même chose. Hein, donc c'est un tarif 2 euros pour les étudiants, 10 euros plein tarif et 6 euros pour les.
T'as 4 euros pour les personnels et 6 euros pour les demandeurs d'emploi
et les tarifs réduits en général. Ouais.
Voilà. Donc c'est à l'entre-deux, on va redire l'adresse quand même.
L'entre-deux, c'est au 1 rue Paul Duez.
Voilà. Il y a un métro pas loin.
C'est le métro Grand Palais. Voilà. Vous dirigez vers le Zénith depuis Grand Palais et puis vous allez tomber sur des grandes affiches mauves, couleur de l'université, avec écrit entre deux dessus.
En fait, tu sais comment je fais, moi, je prends le métro, je descends au métro, enfin quand je dis je descends, je remonte après dans la cage d'ascenseur, et là, c'est directement derrière.
Ah bah, c'est peut-être une bonne manière de faire.
Ouais. C'est vrai que... Vraiment devant, là. On est carrément devant. Il y a l'ancien commissariat où j'ai passé un jour, à une manif de Saint-Nicolas, tu vois, je m'en souviens encore. Mais bon, il est désaffecté maintenant.
Ouais, maintenant, je sais plus ce qu'il y a à cet endroit-là. Mais ouais, non, c'est vrai que ça. Bah, prenez le métro, prenez l'ascenseur.
Ouais,
en sortant
cool,
du métro, comme cool. Ça, vous ne raterez pas l'endroit.
Donc voilà, l'entre-deux, et une résidence aussi d'étudiants dans ce coin-là. Est-ce qu'ils viennent vous voir? Non.
Je ne sais pas si. S'il y a des étudiants qui viennent nous voir, on ne demande pas s'ils viennent de la résidence. D'accord. On demande à chaque fois de quelles composantes ils viennent, comment ils ont eu vent, en fait, des choses. C'est toujours bien pour nous de voir un peu ce qui fonctionne.
Voilà, donc peut-être qu'il y aura même des étudiants turcs qui viendront pour cette occasion du 12 juin.
Hein.
C'est quand même l'occasion que amène du public pour partager leur culture, qui est magnifique aussi. Quelle richesse, ce peuple.
D'autant que Yedra, derrière Ilidrim, a une présence de scène tout à fait incroyable. Elle a un charisme très particulier. Et ils seront accompagnés par une première partie ou une deuxième partie, je ne sais pas, par Valentin Carrette, qui est un musicien d'ici, qui a la particularité de jouer tout seul sur scène, sans parole, juste avec sa guitare et des effets, des loop stations. On a écouté ça tout à l'heure. Bon, il n'y a pas forcément d'enregistrement de très bonne qualité sur YouTube, mais c'est très impressionnant. Beaucoup d'ambiance qui rappelle des grandes symphonies romantiques, comme des moments beaucoup plus intimistes qu'on peut retrouver dans la pop et dans le rock.
D'accord.
C'est assez bien. Et donc ce mélange des deux dans un concert risque d'être vraiment très...
Pour le coup, ça va être des sonorités assez, un concert assez complet en termes de sonorités. Mais ça me fait penser, je crois que c'était en novembre ou en décembre, il y avait un artiste britannique qui s'appelait Matt Elliott qui était venu à l'entre-deux. Et pareil, il était tout seul sur scène et il prenait l'espace sonore. Et c'était incroyable de le voir jouer et de voir justement... je sais pas comment il se débrouillait avec ses pédales, ses loopers, etc.
Fou, hein.
Mais il était vraiment, et en plus, ça avait un rendu exceptionnel. Quoi. Parce que on peut s'imaginer qu'une petite erreur, un petit accro, un temps juste après, c'est fichu, le morceau ne part pas. Quoi. Donc en soi, c'est aussi digne d'une performance. Quoi,
bien sûr. Et puis ça, forcément, il y a une part de hasard et qui fait que à chaque fois, le concert est différent finalement, parce que les boucles, à un moment donné, il y a le bruit qui a démarré avec ça et ça s'intègre d'une autre manière. Voilà, des beaux moments à partager.
On aura ensuite un autre concert. Je vous fais toute la programmation du juin, comme ça c'est fait.
Parce que
de toute façon. Et ça sera un concert, cette fois-ci, folk, beaucoup plus folk et tranquille.
Concert Call of the Trees. Navré pour l'accent anglais encore, je ne me suis pas amélioré depuis la dernière fois.
C'est quoi ta langue préférée?
Moi,
au-delà du français?
C'est l'allemand.
L'allemand, ouais.
Mais
essaye de le dire en allemand pour voir.
Non,
c'est compliqué.
Ça fait longtemps. Je l'aime beaucoup parce que je l'ai étudié pendant un certain temps, mais après, je l'ai perdu. Parce que,
Blumen. Non, Blumen, c'est fleur.
Sehr gut.
Je ne dis pas ce que c'est. Sprache.
Mais petite parenthèse, c'est vrai que. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de tomber dans des bahuts qui faisaient allemand. J'ai pas décidé en premier lieu de faire allemand. C'est plutôt ma mère qui m'a fait vas-y, prends l'allemand, tout ça, machin. C'est une autre langue que l'anglais. Vas-y, vas-y. Et au départ, j'avais pas plus de rapprochement avec cette langue. Et puis, c'est à force de l'étudier, et, au bout d'un moment, on apprécie.
Oui, bien sûr. Moi, je l'avais un peu étudié en quatrième, en deuxième langue, et puis je l'avais complètement oublié. Mais quand je suis retourné en Allemagne il n'y a pas très longtemps, ça revient assez vite finalement.
Bah après, je pense que c'est une langue, c'est, si on la pratique pas, bon, voilà, va devenir bouillonne. Mais c'est normal, surtout si c'est pas ta langue maternelle. Mais après, quand on est relancé, quand on est heureux, en contact sonore aussi, bah, je sais que moi, au niveau de l'apprentissage d'une langue, j'ai toujours appris au niveau sonore, ouais. Au niveau, j'ai extrêmement du mal. Tu mets un texte, j'ai plus ou moins du mal. Il faut que je le lise pour essayer de comprendre un petit peu le sens exact de la phrase. Et que je le lise à voix haute, sinon pour moi ça reste un peu de l'égyptien, des hiéroglyphes.
Pour faire un parallèle assez intéressant avec la musique, on apprend notre langue maternelle de manière instinctive. En fait, on l'apprend parce que les gens nous parlent en français. C'est comme ça qu'on apprend. Et après, peut-être qu'on regarde la structure de comment fonctionnent les verbes, etc. Mais on s'est déjà parlé avant de faire ça. Et la musique, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la musique est envisagée aujourd'hui de la à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer par du solfège, je pars de l'apprentissage de chaque note, etc. Et il y a un musicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Victor Wooten, qui est un grand bassiste de jazz, qui a fait une conférence où il parlait justement de ce rapport entre la musique et le langage, et que lui avait appris la musique comme un langage. On l'avait mis au milieu d'un groupe quand il avait 3 ans, on lui avait donné un instrument, il avait dû apprendre à jouer en écoutant les autres avant de savoir ce qu'il jouait, en fait. Et c'est un des plus grands musiciens d'aujourd'hui, ce type.
C'est vrai que ça commence à se développer, ce genre d'apprentissage. Je pense qu'il y a eu des périodes intermédiaires. Je ne sais pas si vous avez connu Daddy, un guitariste. Là. Oh. Non, en fait, c'est un gars, il avait inventé sa méthode. Donc, ce n'était pas une méthode qui passait par le solfège, etc. C'est une méthode technique. Et bon, on apprenait assez vite la guitare avec sa technique, on va dire, sans forcément se compliquer avec tout
la base. Je pense que c'est une question de priorité. On commence par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par apprendre la technique ou est-ce qu'on commence par apprendre à parler avant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on veut faire ? Et ça, je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser. Et pour revenir à l'entre-deux, ce qu'on fait au service culturel, c'est qu'on a mis en place un atelier avec le Tirlen, la compagnie basée à Moulins, et c'était exactement ce type d'apprentissage.
Bah oui,
en fait, ils apprenaient juste en jouant avec les autres, ils enseignaient.
Si on prend tous les manouches, etc., ils n'ont pas appris le solfège. Quoi. C'est clair que Django Reinhardt et d'autres n'ont pas attendu de se mettre au solfège avant de jouer, heureusement.
Ouais, heureusement. peut-être qu'ils n'auraient jamais joué ils avaient appréhendé le solfège. Tellement de personnes me disent « j'ai pas envie de faire de musique parce que le solfège, ça me gave. J'en ai fait 2 ans et puis j'ai arrêté. » Parce que et c'est un gros problème. Il faudrait que tout le monde puisse apprendre la musique comme on apprend le langage.
Voilà. On va donner des cours du soir. On va rattraper le temps perdu. À la recherche du temps perdu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire écouter, Vladimir, qui pourrait...
Le groupe dont on parlait, je crois, concert Call of the Trees, donc qui est du folk très, très feel-good, très gentil, un duo qui chante... Là, c'est leur chanson s'appelle Sometimes. Et moi, je propose qu'on l'écoute.
Sometimes, yes.
Sometimes
Voilà donc un groupe que vous retrouverez le 14, c'est un jeudi, à l'entre-deux. Là, vous pouvez aussi, à partir de là, en déduire que le 12, c'est un mardi. Mmh. Comme ça, maintenant, vous savez exactement où et quand vous rendre pour ces derniers concerts de l'année dans l'Université de Lille, qui se concentre donc à l'entre-deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore annoncer pour conclure? Bah
justement, en parlant de derniers concerts, ce n'est pas les dernières soirées qui sont programmées, mais par contre, ce sera le dernier concert qui sera programmé au mois de juin, et donc pour l'année. Et donc, c'est un concert de Ultimate Beats Battle. En fait, Donc, l'Ultimate Beats Battle, en fait, c'est un groupe qui joue en live des musiques de jeux vidéo. Et là, pour le coup, et en même temps, il y a en fait une espèce de... Comment dire, de ouais, le public est amené en fait à jouer aux jeux vidéo en même temps que ce groupe joue la musique du jeu. Ça fait que bah t'as en général deux personnes là c'est par exemple sur le jeu rétro Ninja Turtle par exemple,
les Tortues Ninja, qui est un jeu des années 90 qui a eu beaucoup de succès, voilà. Notamment pour c'est un jeu d'arcade qui était vachement utilisé, et en fait moi j'étais allé les voir à l'aéronef parce qu'ils avaient fait un truc à l'aéronef pour une soirée jeux vidéo, et c'est très drôle parce qu'il y a deux personnes du public qui montent sur scène, on leur donne des manettes. Le groupe joue la musique en fonction des scènes, en fonction des boss, en fonction des victoires. Ils sont vraiment calibrés sur la musique. Et c'est un vrai groupe avec batterie, guitare, etc.
C'est un peu comme le même principe, tu sais, des orchestres symphoniques avec les films. Tu sais.
D'accord.
Avec les jeux vidéo. Avec des musiques qui sont inspirées notamment du jeu, d'autres qu'ils ont composées, etc. Mmh. Et avec un commentateur en direct qui va commenter le match et dire des débilités.
C'est vrai qu'il faut des compositeurs pour ces musiques de vidéo. Hein.
Et il y en a qui sont
métier.
Très connus. Il y en a vraiment qui sont... je me suis un peu intéressé au monde du jeu vidéo et notamment au monde des compositeurs, notamment ceux qui ont composé la musique de Mario par exemple, qui est une musique extrêmement célèbre, extrêmement connue, qui est associée à un jeu vidéo. Ces gens-là ne savaient absolument pas qu'ils allaient construire quelque chose qui allait devenir aussi marqueur pour une génération. Le compositeur de la musique de Zelda aussi. Zelda était très très connu pour ses musiques. Metal Gear Solid aussi a eu des très très belles musiques. Et c'était caractérisé par ce qu'on appelle le chip tune, c'est-à-dire qu'on pouvait que composer pour des machines très peu puissantes, donc on était obligé de le faire avec des tout petits synthés modulaires qui n'allaient pas à la voix. Mais du coup, ça définit un style de musique qui aujourd'hui est en train de revenir dans la musique électronique, où le chip tune, on utilise des sonorités, des choses pour essayer d'embellir un peu et de donner un petit côté vintage aussi à la musique. Parce qu'aujourd'hui, les jeux AAA et les gros jeux vidéo, ça demande des musiques d'orchestre immenses. Mais...
Alors, on parlait là de musique de jeux vidéo, mais il y a aussi quelque chose qui se développe énormément. Bon, peut-être vous n'êtes pas concerné, hein, c'est le e-sport.
Oui, si. J'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu avec League of Legends par exemple. League of Legends,
c'est Fortnite aussi.
Mais j'avoue que moi je le vois de loin. Quoi.
C'est joué à Lille 2, en Staps par exemple, il pourrait imaginer de faire un grand truc de e-sport. c'est la mode, va entrer dans les JO.
Mais c'est vrai.
Alors, faut vous y mettre, les gars.
C'est juste que le jeu vidéo peine encore à convaincre parce que je pense que c'est un art qui s'est développé à la base sur une industrie et ça brasse des millions et des billions. Il y a beaucoup de gens qui peinent encore à voir ce nouveau type d'art émergent comme étant un art à part entière.
Mais là, j'ai vu des scènes de 25 000 personnes complètes qui regardent des matchs fous.
En Corée, c'est un phénomène.
Donc forcément, quand il y a de l'argent, il y a du business, ça tourne, ça va se faire. Donc, il faut prendre un petit peu l'avance.
Moi, je ne suis absolument pas gamer, je ne sais pas pour
avoir... Je dis ça pour les gens en Staps, j'en connais plein, moi, des étudiants de Staps, ça les brancherait hyper de faire du sport.
Après, justement, c'est... Une autre question, c'est quand même, qu'est-ce qu'on appelle sport finalement ? Est-ce que c'est une pratique physique ou... Parce que là, pour le coup, tu vois, je veux dire, à part le...
C'est une pratique de compétition en équipe.
Oui, mais c'est justement ça.
Après, moi, je préfère le e-sport au sport. Hein.
c'est plus confortable.
Si on prend par exemple les échecs, on dit toujours c'est un jeu, mais en même temps, c'est un sport, non ?
C'est un jeu de compétition qui a été institutionnalisé dans des règles très définies. Donc si c'est ça notre définition du sport, dans ce cas-là, jeu vidéo, bien entendu.
Donc après, effectivement, c'est pas un sport physique, quoi qu'il ça exige une certaine concentration. Et puis je vois que les gens de e-sport, avant de se lancer dans leur compétition, ils font du footing le matin. C'est pas des
fainéants. C'est pour gérer le stress. En même temps, quand tu te retrouves avec des parties qui durent 4 heures, 5 heures, presque toute la journée, et que tu es devant un écran,
Et on m'avait expliqué, j'avais des amis qui en jouaient pas mal, et puis ils m'avaient expliqué un peu les subtilités de ces parties-là, ouais. où en fait c'est vraiment un jeu en équipe, où chaque personnage a un rôle très défini. Et en fait, il y a toujours une partie de hasard, parce qu'on sait jamais ce qui va tomber comme objet, comme pouvoir. Et donc faut être toujours adapté, il faut avoir chacun sa position, et aussi pouvoir être flexible. Enfin, c'est un truc incroyable.
Grande concentration, une préparation intense.
Ouais. Puis après, tu as aussi tout ce qui est ce qu'on appelle la méta du jeu, c'est-à-dire qu'à certaines périodes, avec certaines mises à jour, tu as tel calcul qu'il faut prendre en compte parce que c'est l'optimal de la technique et à chaque fois ça bouge. Donc, c'est vrai que c'est.
Après, si on peut parler du concept de artiste de haut niveau, qui aujourd'hui est une qualification reconnue pour les danseurs. C'est-à-dire que c'est du sport et c'est de l'art. Alors, pourquoi le jeu vidéo ne serait pas un jeu et aussi du sport?
Pour info, il y a une seule artiste de haut niveau étudiante. Classé haut niveau, artiste de haut niveau à Lille, à l'université de Lille. Une seule, en danse.
On en avait parlé, je crois, la dernière fois quand on était.
C'est quand même remarquable. Hein.
Une seule, vous voulez dire en France, est étudiante.
Sur Lille, oui. Alors que c'est quelque chose qui existe maintenant, mais les gens ne savent pas qu'ils peuvent demander ce statut particulier. Donc, dans l'émission du matin, la matinale de Radio Campus, réalisée par des étudiants de l'Académie ESJ, ils ont interviewé donc cette personne qui est donc avec un statut particulier, qui a notamment des horaires adaptés, des choses comme ça, pour pouvoir aller quand il faut. Sur une chorégraphie, il faut qu'elle y aille.
Ça demande un travail fabuleux.
La danse, c'est un truc de ouf, quoi, en termes de préparation, en termes de technique, en termes de c'est un métier qui est quand même qui dure pas forcément très longtemps pour tenir le rythme, mais qui demande un travail énorme, quoi. Chapeau, respect. Voilà.
Et puis, pour terminer. Donc là, je rappelle que ce concert Ultimate Beats Battle, qui je pense sera vraiment quelque chose de très très ludique, ça va vraiment être la bonne ambiance, il y a vraiment une participation avec le public, et le public vote aussi pour savoir s'ils veulent garder des joueurs en train de jouer ou pas. Si jamais il y en a un qui se fait battre, on dit est-ce qu'il retente sa chance, et le public dit oui ou non, et après quelqu'un du public revient, enfin c'est très drôle. Donc voilà, ça sera le 15 juin, pareil, 20h30 à l'entre-deux, le 15 juin, voilà. Et puis on va terminer avec le 19 et le 20 juin qui seront deux soirées de lecture thématique autour de deux textes d'Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux qui est une écrivaine française qui s'est spécialisée en quelque sorte dans l'écriture de ses biographies qu'elle aborde sous un prisme très sociologique. Notamment son rapport avec sa mère qui sera traité le 19 juin dans son livre Une femme. Et ça sera une lecture préparée et mise en voix par Thomas Piasecki. Qui sera avec Muriel Colvez et Florence Mazur. Donc ça sera une adaptation et une lecture de ce roman-là qui parle de la relation entre une fille et sa mère sous des prismes à la fois très sentimentaux, avec cette confrontation, cet amour, cette haine aussi qu'elles peuvent ressentir l'une pour l'autre. Et aussi d'un point de vue aussi assez large et sociologique en essayant de regarder les structures qui font ces deux personnes, comment ça s'articule. Et le 19 juin et le 20 juin.
Pour préciser, le 19, c'est une semaine après le 12. On a dit tout à l'heure que c'était deux jours avant le jeudi. Donc c'est bien un mardi.
Ça sera un mardi 19 sans doute.
Et le 20, qui est le lendemain du 19,
qui sera donc un mercredi.
Un jeudi.
Il y aura quoi ?
Il y aura donc un travail sur un deuxième roman d'Annie Ernaux qui s'appelle La Place, et toujours avec les mêmes interprètes, et toujours mise en voix et préparée par Thomas Piasecki avec Muriel Colvez et Florence Mazur. Et là, ça va plus parler de la mort du père d'Annie Ernaux et la manière dont elle a réussi à se construire par rapport à ça, en essayant justement de combler ce vide, de réfléchir autour de ce vide-là. Et toujours avec, je pense, beaucoup de subtilité, beaucoup d'humanité, et aussi avec à chaque fois des thématiques globales qui se dégagent de ce texte très personnel, pourtant très général, j'imagine.
Voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Que ce fut une bonne année de programmation et que ça s'achève petit à petit.
Je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir le premier mercredi de juin. Non,
c'est comme tu veux.
S'il se passe quelque chose, pourquoi pas.
Vous avez toujours votre place au chaud.
On y pense.
Mais profitez.
Ou alors vous faites une récap de l'année.
Et des temps forts.
Des temps forts de l'année prochaine. Annoncer deux, trois trucs.
On peut faire un tournoi de e-sport ici.
Ouais, si vous voulez.
On pourrait le faire.
En décrivant l'image. Ça risque d'être un peu dur. Non, mais c'était, ça a été, je pense, hein, moi j'y suis là que depuis janvier, mais ça a été une belle année en tout cas pour l'entre-deux encore et pour la programmation culturelle de l'université.
Donc tu re-signes, c'est ça ?
Et alors, je ne sais pas si je vais re-signer. Peut-être que je vais sans doute rester ici l'année prochaine, peut-être plus proche de Radio Campus.
C'est bien aussi, l'univers est intéressant et dynamique, comme tu peux le voir.
Et profitez bien de tout ce que l'entre-deux a à offrir au moins jusqu'en juin et jusqu'en fin juin. Parce qu'après, la fusion des trois services culturels aura lieu. Aussi, oui. Et on est encore en train de travailler sur la programmation, mais il y aura des choses qui vont changer en profondeur.
Bon, bah merci Vladimir, merci Raphaël. Merci, on se retrouve, je l'espère, peut-être, c'est ouvert, on vous l'a dit, le 5 juin. Sinon, à la rentrée, c'est quand ?
C'est quand les cours reprennent.
Quand les cours reprennent. Bon, on suppose que les grèves seront achevées et que les cours reprendront.
Ah bah j'espère que non, il faut continuer à se battre.
D'accord.